Monique Néron, bonjour.
Bonjour Bernard.
Alors, racontez-nous donc cette histoire, cette femme de 65 ans qui a été tuée à Valleyfield.
Oui, autre histoire vraiment troublante qui a commencé hier soir vers 21h30 par un appel 911 et selon ce qu'on m'a expliqué, là, c'est la femme elle-même, la victime, Joanne Chaillé, 65 ans dans cette affaire, qui aurait communiqué avec les policiers. Donc, on comprend qu'elle appelle à l'aide hier soir et lorsque les policiers se présentent sur place, il y avait le conjoint qui attendait, qui était par une fenêtre et qui aurait tiré directement en direction des policiers. Là, ce qu'on m'expliquait vraiment, ils sont sortis de l'autopatrouille, ils n'ont eu aucun temps de réaction. Là, c'était carrément une embuscade. Ils ont eu des tirs et un des policiers a été atteint. La bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle dans toute cette affaire-là, c'est que le policier s'en tire. Il a passé une partie de la nuit sur la table d'opération, grièvement blessé, mais il va s'en sortir. Lorsque les policiers ont pu rentrer à l'intérieur de la résidence, c'était 4 heures plus tard, hein, parce que compte tenu de la dangerosité de la scène, ils se sont retirés temporairement le temps d'appeler du renfort. Le GTI est arrivé sur place avec l'équipement spécialisé. Vers 2 heures du matin, ils sont entrés à l'intérieur. Le suspect, un homme de 72 ans, qui était le conjoint de la dame, était blessé. Cependant, la dame, il y avait malheureusement rien à faire. Elle était déjà décédée, la victime. Et donc, la Sûreté du Québec a confirmé ce matin là, qu'on avait bel et bien affaire à un homicide commis dans un contexte de violence conjugale. Quel est l'historique? Quel est le portrait complet de cette affaire?
Exact.
Beaucoup trop tôt pour s'avancer, là.
Mais Mme Chaillé, ce que je comprends, c'est que ça ne fonctionnait plus avec cet homme-là et ils étaient comme revenus ensemble. C'est ça qu'il faut comprendre?
Bien, ce que moi aussi j'en comprends, mais évidemment tout ça reste à être confirmé. Là, je pense qu'il faut être prudent à ce stade-ci. Mais effectivement, elle était mariée avec cet homme-là. Elle aurait divorcé et s'est revenue avec lui au cours des derniers mois, même qu'ils avaient fait l'acquisition de cette nouvelle demeure à la Valleyfield, sur la rue du Sentier, au mois de juin dernier. Sur ses réseaux sociaux, Madame Chaillé, pas plus tard qu'au début du mois d'août, là, il y a quelques semaines, elle expliquait qu'elle était tellement heureuse d'avoir d'être dans ce nouveau nid d'amour avec son fiancé, qui en réalité était son ex-mari. Donc, c'est un peu comme si on comprend qu'elle lui avait probablement donner une deuxième chance. Mais est-ce qu'il y avait déjà eu des antécédents de violence conjugale? Ça, écoutez, je n'ai pas l'information là, pour l'instant.
Il me semble, Monique, est-ce que je me trompe ou il y en a beaucoup d'histoires de violence conjugale ces temps-ci? As-tu l'impression qu'il y en a plus que d'habitude ou c'est juste qu'on en parle davantage ou on en connaît l'existence plus qu'avant?
Bien, je vous dirais qu'au cours des dernières années, j'ai remarqué qu'il y en a énormément. C'est sûr que je baigne à tous les jours dans les palais de justice. Donc, des causes de violence conjugale, des causes de drames comme ça, j'en vois souvent. Mais c'est sûr que l'histoire de Véronique Barbe à Saint-Eustache, qui a profondément marqué il y a quelques semaines, a ramené un peu, j'ai l'impression, de l'avant cette violence que certains hommes posent envers leur conjointe ou leur ex-conjointe. On en a donc beaucoup parlé depuis quelques semaines. Et d'ailleurs, c'est pour ça que depuis le début de la semaine, j'avais fait une série de chroniques à l'émission de Paul Arcand sur la violence conjugale, mais avant que le drame se produise, parce que je m'intéressais à ces femmes qui sont aux prises dans ce cycle-là et qui font appel à la police et qui dénoncent et qui, malgré tout, se retrouvent un peu traquées et craignent pour leur vie, parfois même la vie de leurs enfants. Donc, c'est sûr que pour moi, ce matin, quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai trouvé ça profondément troublant parce que ça s'inscrivait dans une lignée de chroniques où je me disais, il faut parler aussi de ce qui se passe avant, comment on peut expliquer qu'un drame comme celui-là survient. Et là, ce matin, on se lève et on voit cette nouvelle-là. C'est vraiment désolant.
Résumez-nous c'est ce que vous avez découvert au cours des derniers jours, justement, sur ces femmes qui font appel à la police, qui dénoncent la violence dont elles sont victimes, puis qui par moments, on les laisse tomber, Monique. Par moments, le système les laisse tomber, non?
Ben oui, d'une certaine façon, et il y a cette histoire, Madame Sylvie Béliveau, qui a eu un courage exceptionnel, et je dois dire, Bernard, les deux femmes à qui j'ai parlé, qui m'ont raconté leur histoire, ont tenu à le faire en donnant leur identité complète. C'est une façon pour elles aussi de se tenir debout et de dire « c'est pas vrai que je vais laisser mon ex-conjoint l'emporter sur la peur que j'ai ». Madame Béliveau, pour vous donner un exemple, a vécu et vit encore d'ailleurs depuis 5 ans harcelée par son ex-mari. Ça a été un an de violence conjugale. Elle avait porté plainte, mais malgré le fait qu'il a été arrêté, malgré le fait qu'il a été reconnu coupable, qu'on l'a condamné à une peine de prison à domicile, il n'a jamais lâché prise. Imaginez, ça avait commencé pendant un voyage de noces. Elle a été battue pendant des mois, cette femme-là. Et un soir de décembre, alors qu'elle en avait assez, elle était partie nu-pieds en plein hiver, en jaquette. Elle avait caché une clé dans son soutien-gorge parce qu'elle savait que sa vie était menacée. Et ce soir-là, elle est partie, elle s'était réfugiée chez une amie. Pour vous donner un petit peu un exemple de l'absurdité dans un contexte comme celui-là, lorsqu'elle appelle le 911 pour dire « Je suis victime de violence conjugale, mon mari veut me tuer, je viens de fuir la maison », on lui avait dit qu'elle n'était pas dans le bon district, qu'elle devait changer et retourner là où ça s'était passé pour porter plainte dans cet endroit-là. Donc, ça vous donne un peu une idée parfois de ce qu'on peut faire dans un contexte comme celui-là. Et Mme Béliveau, après la condamnation et même au moment où il purge sa peine, elle, on pourrait penser que son calvaire est fini, mais pas du tout. Au contraire, il la harcèle, il la suit, il la texte, va à sa rencontre dans les lieux publics, entre par effraction dans sa maison, dans sa voiture,
donc
a percé son spa. Et là, quand elle appelle la police se présente et dit « Madame Béliveau, comment vous faites pour être certaine que c'est lui? » Voyez-vous, il y a comme ils ont pas de preuves. Donc oui, ils peuvent ouvrir, par exemple, une enquête pour possible bris de condition, mais au final, cette femme-là, elle est seule. Elle est seule contre son ex-conjoint.
Et les policiers peuvent rien faire, Monique?
Dans certains cas, dans son cas, il y a eu des ajouts de bris de condition. Donc souvent, ça peut se traduire par quelques jours de prison supplémentaire, par exemple.
Mais on peut pas le mettre en dedans, ce gars-là. Visiblement, là, c'est un cas classique, là. Si jamais il arrive de quoi à Mme Béliveau, on va se dire, on aurait donc dû. On le savait. Elle nous l'avait dit. On n'a rien fait.
C'est en plein ça, et c'est un peu un cas où même la justice n'y peut rien. Parce que cet homme-là a été arrêté, a été condamné.
Il nous dit qu'il fait de la prison à domicile, c'est ce que j'ai entendu.
Et pendant qu'il purgeait sa peine à domicile, on lui permettait d'aller travailler. Donc ça arrive souvent, là, les peines avec sursis à la maison dans des cas comme ceux-là. Et là, il y a un couvre-feu à respecter, mais il ne le respecte pas. Il n'y a pas un véhicule de police devant chez lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est un cas épouvantable où on se dit, oui, effectivement, dans ce cas précis-là, ça donne rien. Lui, il s'en donne à cœur joie quand même. Et l'autre cas, qui est aussi troublant, c'est celui de Nancy Carrière que je racontais hier matin. Cette femme-là, complètement désemparée, Bernard, nous écrit, m'écrit, et elle le fait parce qu'elle ne sait plus vers qui se tourner pour assurer sa sécurité. Je vous raconte brièvement, son ex est recherché depuis 2015 pour violence conjugale, entre autres. C'est un homme qui a une longue liste d'antécédents criminels et elle a un petit garçon de 6 ans. Et vous savez, quand, dans certains contextes assez spécifiques, on va remettre à une victime de violence conjugale et même à des enfants ce qu'on appelle une manette de sécurité, donc qui permet d'actionner un bouton panique qui est relié à une centrale d'alarme et qui permet d'alerter les autorités. Dans ce cas-ci, le petit garçon se promène, va part à vélo avec sa manette de sécurité, dort avec sa manette de sécurité, et s'il voit son père, il doit appuyer sur cette manette-là. La mère, même chose. Mais pour vous donner une idée, quelques jours avant que je fasse mon entrevue avec Mme Carrière, il avait été aperçu, son ex, imaginez-le, près de 2 ans après qu'un mandat d'arrestation a été émis, à La Plaine. Ça a pris 22 minutes pour que la police se présente sur place. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? L'homme était parti. Et là, lorsque la police se présente, et j'ai posé des questions à la police de Terrebonne, on me dit, quand l'appel rentre, pour nous, c'est une priorité 3. C'est-à-dire que c'est urgent, mais la vie de personne n'est actuellement en danger. Donc, ils se présentent sur place. Il y a eu un petit cafouillage aussi dans la réponse de l'appel. Mais ces gens-là, et j'ai posé la question, quand on appelle, oui, ils voient que le gars est visé par un mandat d'arrestation, mais il n'y a rien qui leur indique la gravité de la situation. Il n'y a rien qui écrit, c'est pas écrit nulle part, que Nancy Carrière et son fils se promènent à la journée longue avec une manette de sécurité et qu'ils sont considérés comme étant en danger au quotidien.
Vive l'informatique. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est ça? C'est ça? C'est que l'information ne circule pas?
Ben, j'ai l'impression que ça circule dans la mesure où, bon, on comprend que cet homme-là est visé par un mandat d'arrestation, que c'est une affaire de violence conjugale, mais Il n'y a pas tout le contexte derrière. Et là, je comprends, là, on n'est pas pour commencer à écrire un roman derrière chaque individu qui est recherché. Mais n'empêche, je pense que dans des cas comme ceux-là, ça peut être une question de prévention. Parce que là, mais Mme Carrière me disait, ils attendent quoi? Qu'il me tue? Qu'il kidnappe mon fils? Qu'il s'en prenne à mon fils? Parce que là, cet homme-là, en plus, rôde et revient tranquillement dans le décor et par personne interposée commence à poser des questions sur son garçon. Donc, et elle voit une Véronique Barbe qui est assassinée à Saint-Eustache et c'est sûr et certain que ces femmes-là vivent dans la crainte au quotidien et comme elles ont l'impression que la police peut pas faire grand-chose, ben elles se tournent vers nous en disant au moins si mon nom est publié partout, probablement qu'il n'osera pas. Et écoutez, c'est une quasiment une façon de se protéger. C'est ce que j'ai senti de ces deux femmes-là. C'est épouvantable.
Je suis en train de me demander, Monique, s'il ne faudra pas créer une escouade spéciale pour lutter contre la violence conjugale, là, où tu as des policiers qui sont affectés à ça, puis l'information circule, puis... Tu sais, on en a créé des escouades spéciales, là. Il fallait parfois, lutter contre le crime organisé, par exemple. On s'est donné des outils avec des moyens, puis on le fait aussi pour d'autres sortes de crimes, de situations. Mais je suis en train de me demander si on n'est pas rendu là au Québec. C'est parce que là, vous recensez plein de cas, puis visiblement, il y en a beaucoup d'autres. Pour chaque cas que vous recensez, il doit y en avoir quoi? 10, 100, 1000 de femmes comme elle, mais qui n'osent pas vous appeler ou qui n'osent pas appeler la police.
Tu sais? Et ces deux femmes-là, justement, se sont dit également, c'est peut-être une façon d'expliquer comment elles vivent au quotidien et peut-être également inspirer d'autres femmes à porter plainte. Parce que dans le cas de Mme Béliveau, bon, ça a duré à peu près un an. Mais pour ce qui est de Mme Carrière, dans son cas, elle a enduré cette violence-là pendant un certain temps et elle ne voulait pas porter plainte. On le connaît, le fameux cycle de la violence conjugale. C'est beaucoup plus complexe qu'on peut penser. Et c'était les voisins qui étaient inquiets pour elle et son fils qui appelaient. Et à un certain moment... Parce qu'il faut quand même souligner, là, il y a des policiers qui sont très sensibilisés malgré tout. C'est une policière qui s'est présentée puis qui a dit « Nancy, la prochaine fois que je vais revenir, j'ai peur de te trouver morte. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu sortes d'ici avec ton garçon. Il en va de ta vie. » Donc, il y a des policiers qui sont conscientisés. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire. Bernard, j'aimerais avoir la réponse aujourd'hui, mais chose certaine, je trouve ça profondément inquiétant et les témoignages que j'ai recueillis au cours des derniers jours et ce qui se passe encore ce matin, effectivement, le mérite qu'on se penche sur la question.
Monique Néron, journaliste judiciaire au 98.5. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Monique. C'est très apprécié.
Au plaisir, Bernard. Merci.
Bye.